Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Rebonsoir et ou bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour ce Énerver la Suite qui arrive tard, je sais, après les spots de campagne des élections européennes. Alors restons dans le sujet, on est à J-5 avec 34 listes et dans le lot, 10 listes pour la gauche, de la plus révolutionnaire à la plus centriste. Résultat tragiquement mathématique, celles qui ont le plus de chances de réunir des suffrages finiront sous les 10, voire les 5%. C'est étrange de voir que tous sont d'accord pour défendre l'idée de l'Union, mais pas ensemble. Entre listes écolo, communistes, insoumises, place publique et autres, mais qu'est devenu le Parti Socialiste ? Après l'émergence d'En Marche et l'électrochoc Gilets jaunes, dans quelle direction la gauche erre-t-elle ? Et au fond, ne manque-t-elle pas tout simplement de grandes figures charismatiques ? Ouh, la gauche, tu es en perdition, c'est votre titre, Christophe Boursier. Je l'ai bien...
Ouh, la gauche, tu es en perdition.
Voilà. Voyez,
un côté plus conte pour enfants, peut-être.
Hein. Pour y répondre, ils seront trois. Michel Vinocq, historien qui connaît bien sa gauche, il suffit de vous lire dans Les figures de proue de la gauche depuis 1789, ça vient de paraître chez Perrin. Bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, deux journalistes, Judith Ventraube du Figaro, bonsoir.
Bonsoir.
Et Claude Askolovitch qui décrypte la presse tous les matins sur France Inter, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Le Énerver la Suite, à voter.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Christophe Boursier.
Alors, connaissez-vous, Laurent, le point commun entre Raphaël Glucksmann, Benoît Hamon et, disons, Gaspard Ganzer ? Eh bien, chacun d'entre eux pourrait paraître en couverture de Vogue Homme. Oui, Laurent, quand on assiste à un meeting de la gauche en reconstruction, on se croirait dans un défilé Dior Monsieur. C'est qui ces bellâtres insipides, ces Apollons de deuxième démarque ? Vous croyez vraiment que c'est comme ça que la gauche en perdition va retrouver son âme ? Apôtre, je continue,
apôtre
d'un centrisme new look, Emmanuel Macron a certes vampirisé la modération. À droite comme à gauche, les éléments les plus pondérés l'ont rallié. Je songe aux sociaux-démocrates Jean-Yves Le Drian ou Gérard Collomb qui, depuis, est reparti dans le tourbillon de la vie. Le macronisme est donc un aspirateur à modérer. Dès lors, on assiste à un phénomène d'extrémisation de la vie politique. À ma droite, le Rassemblement National, à ma gauche, les Insoumis. Où est passée la gauche sociale-démocrate ? Celle de Willy Brandt, d'Olaf Palm et de Michel Rocard. Michel Vinocq, dans l'élection européenne, la gauche a choisi de soutenir un outsider qui ne provient pas de ses rangs, puisqu'il s'agit de Raphaël Glucksmann. Est-ce que, en tant qu'historien, vous êtes l'auteur d'un livre dans lequel vous évaluez les figures qui ont compté dans la gauche, est-ce que vous approuvez ce choix de soutenir aujourd'hui un homme nouveau tel que Raphaël Glucksmann ?
Je n'ai pas approuvé ou à désapprouver, vous savez, mais enfin...
Vous avez bien un avis.
C'est une nouveauté. L'homme nouveau est une nouveauté. Parce que jusqu'à présent, effectivement, dans les grands scrutins, les chefs de liste ou les candidats à la présidentielle sont des hommes politiques ou des femmes politiques qui ont une expérience, qui ont derrière eux des années de vie politique. Bon, donc on peut s'étonner, mais pourquoi pas après tout ? Pourquoi pas quelqu'un qui a des idées et qui peut émerger. Alors je ne dis pas que c'est le cas, je n'en sais rien du tout. Vous êtes journaliste, je suis historien, c'est-à-dire que je regarde plutôt le passé que le moment présent. Immédiat, mais je pense que le problème que vous soulevez au fond, c'est celui du leadership, n'est-ce pas ? Est-ce que la gauche ou le Parti socialiste, puisqu'il s'agit de lui, a besoin, oui ou non, d'un leader ? Eh bien, la réponse est complexe parce que dans la culture de gauche, on ne veut pas de chef. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est dans les livres, dans les traités, dans les congrès, mais en fait. Dans l'histoire, que voit-on ? C'est que la gauche prend véritablement consistance, comme les autres formes politiques, comme les autres partis politiques, avec un homme ou une femme qui incarne quelque chose, qui a un pouvoir charismatique, vous avez dit, oui, qui a un ascendant, qui est... Voilà, qui... Donc je dirais que, pour le moment, la gauche, et en particulier le Parti socialiste, un problème, un double problème, le problème de leadership, oui, et le problème d'identité, mais nous y reviendrons peut-être.
Ben oui, mais justement, Judith Weintraub, Raphaël Glucksmann a quand même dit une chose que je trouvais assez hallucinant, il a dit « j'ai beaucoup plus de respect pour Angela Merkel que pour nombre de leaders de gauche ». Alors, faudrait savoir, il est de gauche ou il est de droite ?
Il est sur des convictions, des positions anti-libérales, assez hostile au libre-échange, ça me semble le définir, très écologiste, qui, quand on regarde cette myriade de listes de gauche, est bizarrement le fond commun à toutes. C'est-à-dire que non seulement elle prône l'unité, mais en plus elle se divise pour des raisons qui n'apparaissent pas à l'œil nu. Vraiment, on a l'impression, grosso modo, elles sont d'accord à quelques détails programmatiques près, et on se demande pourquoi tant de haine, finalement.
Claude Eskolovitch, pourquoi tant de haine entre toutes ces listes, alors qu'elles ont un fond commun, en effet, comme vient de le dire Judith Weintraub?
Parce qu'on est dans le désarroi. Je veux juste revenir à la phrase de Glucksmann sur Merkel, parce qu'elle illustre exactement le problème de la gauche. Quand Glucksmann dit « je préfère » ou « j'ai plus d'estime pour Madame Merkel que pour nombre leaders de gauche, comprenez de gauche française », il parle évidemment de la question des migrants. Et il est vrai qu'à un moment donné, où les socialistes officiels estampillés, boum, gouvernaient la France, ferma sa porte aux migrants avec les discours de Manuel Valls que l'on sait, tandis que Madame Merkel, par ses valeurs chrétiennes et par les intérêts de l'Allemagne, bien évidemment, les accueillait. Et là, on en vient au vrai problème de la gauche, social-démocrate ou autre, qui est son utilité. La gauche est censée être une idée et le peuple. Glucksmann a des idées. C'est pas rien hasard si ses livres qui prônait une rupture avec ce qu'on appelait la culture de gouvernement, qui est en réalité une culture de la soumission. C'est pas un hasard si ces livres ont marché. Après, la question est celle du peuple. Il a l'idée, il n'a pas encore le peuple, peut-être l'aura-t-il un jour, je n'en ai pas la moindre idée. Mais c'est aussi l'utilité profonde de la gauche. Une gauche qui gouverne et qui n'est pas capable de se différencier de la norme, on peut en penser du bien ou du mal, libérale qui accourt dans les pays occidentaux. On le voit, il n'y a pas de différence fondamentale entre Macron et Hollande de ce point de vue-là. À quoi sert-elle? Une gauche qui n'est pas capable d'accueillir la misère du monde, pour reprendre l'expression galvaudée de Michel Rocard, à quoi sert-elle? Et le problème de la gauche en France, donc du Parti Socialiste, c'est de n'avoir servi à rien par rapport à ses propres valeurs quand il gouvernait. Ce que dit Glucksmann à propos de Madame Merkel. Tout dernière chose, si disparition du PS il doit y avoir, ça ne se joue pas aux européennes, mais éventuellement, quand viendront les municipales? Si le Parti Socialiste, qui a toujours tout au long de l'histoire, je m'en réfère aussi à Michel Vinoc, résisté dans ses bastions locaux, perd ses villes, alors l'histoire sera foreclose. C'est pas encore le cas aujourd'hui, on est dans des leurres maintenant.
Juste une chose par rapport au Parti Socialiste. Raphaël Glucksmann explique les raisons pour lesquelles il n'a pas cité François Mitterrand. Il a cité le parti de Jaurès, de Blum et de Mendès, et il évoque le génocide des Tutsis au Rwanda, dont le PS de Mitterrand serait complice. On a vu les éléphants du PS monter, crier au scandale. Qu'est-ce que cela dit du PS qui n'a toujours pas retenu les leçons du mitterrandisme, Judith Weintraub?
On parle d'une histoire extrêmement douloureuse sur laquelle aujourd'hui encore tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Quand le rôle de la France dans le génocide au Rwanda reste à éclaircir. On ne peut pas en parler comme d'une vérité historique éprouvée par les faits et par le temps. Reprocher à des gens qui sont directement mis en cause, je pense à Elisabeth Guigou, je pense à Paul Quillès, enfin, vous avez dit tous les éléphants, c'est effectivement rarement on les aura entendus protester ensemble
années, ouais.
À l'unisson depuis quelques années, y compris Bernard Cazeneuve, qui est d'ailleurs sur ce point-là tout à fait sur la même ligne que... c'est normal, hein, le devoir d'inventaire, vous savez, cette fameuse expression qui finalement ne s'est traduite par à peu près rien, n'a absolument pas été fait sur ce sujet-là.
Claude Eskolovitch, c'est un moyen d'enterrer une fois de plus le PS.
Glucksmann a cité Mitterrand plus tard sur l'Europe. Il n'est pas insincère, ce garçon. Il suit ce qu'a voulu mettre en place Mitterrand, notamment dans ses rencontres avec Kohl sur l'Europe. À côté de ça, il pense, comme beaucoup de gens qui ont travaillé sur ces questions, il est allé au Rwanda, que l'attitude de la France, je rappelle que la France, à l'époque du génocide rwandais, était en cohabitation. Et s'il y a responsabilité, il y a minima co-responsabilité entre Mitterrand qui présidait, Védrine qui devait être pas loin de Mitterrand, Balladur, Léotard et d'autres. Donc c'est Juppé. Et c'est très compliqué cette histoire. Mais c'est une histoire de notre pays. De ce que notre pays a fait ou n'a pas fait.
Enfin, quand on s'allie au Parti Socialiste, je suis désolé, mais attaquer François Mitterrand, attaquer la figure même qui a porté le Parti Socialiste pendant des années, puis en termes extrêmement violents, je cite Raphaël Glucksmann, le Rwanda est le plus grand scandale de la Ve République. Gauche et droite ont trempé dedans, même si c'est Mitterrand qui avait lancé cette politique et l'a portée de la manière la plus radicale et abjecte. Vous vous rendez compte ce que dit Glucksmann?
Ce qu'il disait, pas quand il est en train de faire campagne. il n'a pas, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas renié cela. Pierre Ladin a fait devenir Glucksmann. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas renié cela. Il y a des gens qui sont dans le paysage de la gauche, y compris de la gauche socialiste, qui pensent comme ceux qui pensent ainsi que la France, à minima, n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle doit être dans l'affaire du Rwanda. C'est la réelle politique, c'est l'État, et encore une fois, c'était une cohabitation. Ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de ça, en même temps, comme dirait l'autre, sous son respect, il se revendique de Mitterrand sur l'Europe, peut-être se force-t-il un peu, parce qu'effectivement il y a des figures qui sont intouchables, mais l'histoire compliquée et complexe des partis, énormément de jeunes gens dans les années 70 ont rejoint le Parti Socialiste, dirigé par Mitterrand, qui avait été un dirigeant de la 4ème République à l'époque du colonialisme, rejoignent le Parti Socialiste dont Guy Mollet, qui envoie le contingent d'Algérie, était encore membre. Cela n'empêchait pas, la vraie question de la gauche, je suis totalement incapable de dire si elle la retrouvera, et d'offrir une dynamique à l'espérance. Jospin, lui aussi figure oubliée de cette histoire, disait que le discours du que le PS dans les années 70 avait réussi à inventer un discours d'espérance, notamment l'autogestion et d'utopie. À un moment donné, est-ce que dans la vie politique française, dans la crise que nous connaissons, la crise environnementale, il y aura un besoin de discours utopique et généreux? Et est-ce que c'est ce vieux parti socialiste abîmé, est-ce qu'il sera en situation de porter? Glucksmann fait ce pari ponctuel. C'est plus important que la mémoire de Mitterrand, dont je comprends par ailleurs que des gens qui lui doivent tout la défendent aujourd'hui.
Pour vous, Julie Weintraub, si on vous lit bien aussi, c'est que la faute, si le Parti Socialiste est à terre depuis pas mal d'années, ça serait la faute, et uniquement la faute, à ce que vous appelez les islamo-gauchistes.
Ah, vous m'avez mal lu. Je n'ai jamais dit uniquement la faute, certainement pas. Non, pour avoir longtemps suivi le PS et assisté à leurs débats interminables sur quand devons-nous faire notre Bad Godesberg, vous vous rappelez ça, c'était il y a 20 ans, en référence aux sociodémocrates allemands qui avaient rompu avec la rupture avec le capitalisme et avec l'appropriation collective des moyens de production. Le PS a attendu un peu les années 90 et même 2008, qui est la date de réécriture de sa déclaration de principe, pour arrêter de se dire un parti révolutionnaire et se définir comme parti réformiste. 2008, c'est extrêmement tard. Donc, l'une des raisons pour lesquelles le PS français a décroché, c'est que contrairement à ses homologues européens, il n'a pas fait sa révolution sur le intérieur, sur le plan économique. Il est resté, au contraire, révolutionnaire et avec un projet de rupture avec le capitalisme. Ça, c'est sur le plan économique. Il n'y a pas eu de Tony Blair, il n'y a pas eu
Michel Rocard,
l'ex-premier ministre anglais. Il n'y a pas eu de Gerhard Schröder, l'ex-premier ministre allemand. En France, vous n'en trouvez aucun. La deuxième raison, effectivement,
Pardon, vous trouvez vraiment que les politiques menées par François Hollande, Manuel Valls, Hérault, Cazeneuve, ou par Jospin quand il était pouvoir, étaient des politiques de rupture avec le capitalisme et révolutionnaire? Parce que là, vous êtes bien la seule personne en France qui pense que le PS a mené au pouvoir une politique radicale. Il menait la même politique que ses voisins, combien même Jospin n'aimait pas la tête de Blair et n'admettait pas.
On est dans un autre débat.
Oui, on parle du réel.
On est dans un autre débat. Moi, je parlais des principes dont se revendiquait le Parti Socialiste. Après qu'il ait eu au pouvoir une pratique molettiste, pour reprendre une des grandes figures de la gauche, qu'il ait changé de politique sans le dire, tout le monde le sait, 1983, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un reniement de ses idéaux de rupture avec le capitalisme pour en revenir à une gauche, et encore je dis gauche, gestionnaire, réaliste entre guillemets. Donc évidemment que...
Mais finalement, est-ce que la gauche ne fait pas du Guy Mollet en se réclamant de Rosa Luxembourg permanence?
Si, complètement. Mais c'est pas innocent ce décalage entre les mots et les actes, parce que rendant les armes révolutionnaires devant le réalisme, le PS n'en finit pas de s'excuser quand il mène une politique favorable à l'investissement, favorable aux entreprises, et ça, on le vit encore aujourd'hui. Le PS n'est toujours pas guéri de ce point de vue-là. Du coup, j'ai pas abordé la question de l'islamo-gauchisme.
On l'abordera plus tard, Michel Vinocq.
Oui, je suis assez d'accord avec cette analyse, car il faut remonter plus loin pour s'apercevoir que le PS a toujours été alourdi, ennuyé d'arriver au pouvoir. Pourquoi? Parce que lorsque le Parti communiste est né de la scission du Parti Socialiste en 1920, les socialistes, minoritaires donc, mais qui allaient redevenir plus importants que les communistes dans les années suivantes, ont affirmé, réaffirmé, qu'ils restaient profondément marxistes. Et Léon Blum, que l'on voit généralement comme un réformiste, n'a jamais abdiqué, tout au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ses références aux marxistes, à la lutte des classes, à la dictature du prolétariat, ce sont des mots qu'il employait pour affirmer cela. Or, quand ils arrivent au pouvoir, eh bien, ils sont obligés d'affronter le réel. Et comme ils ne font pas la révolution, finalement, que font-ils ? Eh bien, ils font ce que Blum a appelé l'exercice du pouvoir dans une société capitaliste, c'est-à-dire qu'ils deviennent réformistes. Donc, le Parti Socialiste, très longtemps, a été déchiré, n'est-ce pas, entre des principes révolutionnaires marxistes et, d'autre part, eh bien, puisqu'il acceptait le pouvoir, c'était long, ce n'est qu'en 1936 qu'ils sont arrivés au pouvoir. Eh bien, quand ils sont au pouvoir, ils sont obligés de s'occuper du quotidien, de l'immédiat, des réformes importantes qui sont à faire. Et du même coup, lorsqu'ils quittent le pouvoir, il y a un remords. Le remords de ne pas avoir été à la hauteur de leur idéal.
Eh bien, en plein remords actuellement, on va reparler de la gauche dans quelques instants. Je vous propose d'écouter non pas un slogan, mais quelque chose qui a un rapport. Cours camarade, c'est le nouveau titre d'Alex Baupin, comme un avant-goût d'un album attendu pour l'automne.
Cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltigeurs et puis quoi? Cours, camarade, les épaves de pavés, les bousculades, les cocktails et puis après. Camarade, le vieux monde sent la poussière. Dernière ruade, et on l'enterre à Nanterre. Cours, camarade, redis-nous ton beau discours. Sur ton estrade, le poing levé, le cœur lourd. Camarade, le vieux monde reprend son souffle. Quelques décades, et tu rentres dans ses pantoufles. Cours, camarade, tes affiches et tes slogans, comme tu les brades pour vendre des brosses à dents. Cours, camarade, le vieux monde t'a rattrapé. Il est malade, tout prêt à agoniser. Cours, camarade, comme tu en crèves avec lui. T'as des bandades comme on en crève aujourd'hui.
Le socialisme. Le socialisme est né de la conscience de l'égalité naturelle, alors que la société où nous vivons est tout entière fondée sur le privilège.
Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi.
Le nouveau rendez-vous.
Celui-là, il ne peut pas être adhérent. du Parti Socialiste.
C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente, changeons la vie ici et maintenant.
Je rêve.
Laurent Goumard.
Je rêve tout simplement d'un pays ambitieux, dont tous les habitants redécouvrent le sens du dialogue. Pourquoi pas de la fête ?
J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions.
Je voterai pour les socialistes, je vote toujours pour les socialistes. Faut-il encore qu'il y en ait ?
Sur France Inter.
Un peu de réalisme de la part de François Hollande, ça fait pas de mal. Trop de voix et de têtes de liste, la gauche manque-t-elle d'un homme ou d'une femme providentielle charismatique ? C'est une des questions du NRV, on va la poser ce soir à nos invités, l'historien Michel Vinocq, les journalistes Judith Ventrop du Figaro Magazine et Claude Askolovitch de France Inter. Mais avant, peut-être un détour par les Gilets jaunes ?
Oui, un détour important, parce que au fond, est-ce que la gauche, ce n'était pas quelque chose du XXe siècle ? Est-ce qu'au XXIe siècle, là je fais un peu l'avocat du diable, hein. Est-ce qu'au XXIe siècle, il n'y a pas des mouvements sociaux de type nouveau et qui finalement rendre caduque, si je puis dire, ce clivage droite-gauche. Je pense aux Gilets jaunes, on voyait dans les cortèges, on voit dans les cortèges cohabiter allègrement, finalement, un drapeau à l'effigie de Che Guevara et le drapeau des Chouans, sans que ça semble poser de problème. Est-ce que là, un tabou ne s'est pas brisé ? Est-ce qu'une digue n'a pas sauté, Claude Askolovitch ?
J'ai tendance à dire que la digue qui a sauté depuis longtemps, c'est celle qui faisait que la République, et a fortiori les partis de gauche, ne pouvait pas laisser toute une partie de la société dans le dénuement social, moral, intellectuel, affectif, poétique presque. Et donc la confusion qui est venue des Gilets jaunes, mais en même temps cette colère, mais en même temps ce refus de l'injustice, tout ce qu'on a vu en termes de dégâts, mais aussi des scènes de fraternité sur les barrages qui font penser, puisqu'on est dans la mystique, aux bals populaires dans les usines occupées de 36. Tout est en même temps, si vous voulez. Mais le point de départ, encore une fois, et je ne parle que de la gauche, laissons la République de côté, c'est que tout ce ressentiment, toute cette frustration, toute cette colère, toute cette confusion, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps que dans le bassin minier et ailleurs, vieille terre de gauche, on vote Front National, tout ce ressentiment s'est fabriqué dans une période historique où la gauche souvent a gouverné. On a parlé tout à l'heure du remords du pouvoir. Je soutiens, moi, que bien au contraire, les gens de gauche officiels ont joui du pouvoir. Et qu'à un moment donné, à force de jouir du pouvoir, ils n'ont plus su faire la différence. Et c'est pour ça que toute une partie d'entre eux est aujourd'hui très sincèrement avec un homme qui, culturellement, est un homme de droite et le montre régulièrement, l'actuel président de la République. Donc, à un moment donné, qui parle au nom de ce que Mélenchon appellerait les gueux? Et c'est lié à la question de l'homme providentiel, ou de l'homme charismatique, pardonnez-moi, il n'est pas de sauveur suprême. L'homme qui devrait être en bonne logique, par son passé, par son itinéraire, par son talent, par sa culture historique et par sa colère, le leader naturel d'une gauche qui serait redevenu incongru, parce qu'on avait oublié que la gauche, ça peut être incongru aussi, serait Mélenchon. Pour plein de raisons qui tiennent à lui-même, à ses bêtises, à ses erreurs, à son isolement et au refus aussi d'une partie de la gauche de le reconnaître, il ne l'est pas, il rate. Et donc, d'autres personnes qui se sentent abandonnées, j'allais dire d'autres égarées, mais c'était un terme tellement méprisant que je le retenais. Mais d'autres personnes qui naturellement devraient aller vers la gauche vont regarder vers d'autres partis, voire vers rien, voire vers des réseaux sociaux, voire vers un monsieur Nicole. Ça, ce qui est très compliqué. Naturellement, ce que sont les Gilets jaunes, c'est-à-dire une part du peuple qui en révolte et en jachère, devrait aller vers la gauche. Oui, mais la gauche n'est pas là. Oui, elle a aussi de bonnes raisons de ne pas être là. On comprend que Monsieur Berger n'apprécie pas tout ce qui peut être dit par les Gilets jaunes. Mais on est au cœur de ce manque. Manque républicain et manque de la gauche. Et derrière, cette manière qu'a eu Mélenchon de courir après ce mouvement, qui ne lui ressemble pas parce qu'il est un pur intellectuel au départ, eh bien c'est cette conscience, Ruffin l'a dit aussi, que si cette gauche-là, qui est plus importante au fond que le Parti Socialiste aujourd'hui, n'était pas du côté des révoltés, alors plus jamais elle ne pourrait se regarder en face et prétendre au droit à l'existence. Mais bien entendu, c'est très compliqué pour toutes les raisons que Christophe a dit.
Judith Ventrob.
La gauche a rompu avec le peuple, la gauche française, et cette rupture est possible à dater par une note de la Fondation Terra Nova, fondation proche du PS, qui a expliqué en 2011 que il y avait plus d'ouvriers ou que de toute façon ils votaient plutôt pour l'extrême droite, pour Jean-Marie et puis Marine Le Pen, et que donc il fallait s'intéresser aux classes moyennes inférieures, si possible, mais mais surtout, aux femmes et à toutes les sortes de minorités. Et on abordait le sujet de l'islamo-gauchisme tout à l'heure. Il y a une expression qui n'est pas de moi, mais dans laquelle je me retrouve totalement. La gauche a échangé la lutte des classes contre la lutte des races.
Et vous pensez que c'est à ce moment-là qu'il y a eu véritablement un effondrement ?
Et en nourrissant, mais en fait, c'est plus ancien. En 2011, ça a formalisé en termes de stratégie électorale un abandon, une rupture qui remonte bien avant. qu'avait fait aussi à sa manière Lionel Jospin, quand rappelez-vous en pleine campagne de 2002, dont on sait qu'elle s'est terminée par un face-à-face, un deuxième tour entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, Lionel Jospin avait parlé de sentiment d'insécurité pour traiter d'une délinquance grandissante et qui inquiétait tout le monde, y compris, voire surtout le populo, qui était le plus exposé. Cette négation de l'insécurité, ce renvoi de toute idée de politique de sécurité à la droite, c'était pas les affaires de la gauche, de toute façon, c'était très exagéré. Ce culte de la différence au mépris des valeurs républicaines, ça, c'est les fondements de la rupture de la gauche avec le peuple. En fait, la gauche, une partie de la gauche, et la partie qui était rue de Solferino a méprisé le peuple.
Ce qui me gêne un peu dans ce débat, c'est que l'on parle de la gauche. Comme s'il y avait une essence de la gauche. Comme s'il y avait une gauche imaginaire, idéale, qui devrait répondre à tous les maux de la société, du peuple, alors que...
Elle est traversée, on le sait, par plusieurs courants qui
évidemment,
les gauches, oui.
Depuis le début, depuis 1789-90, il y a des gauches. Dans notre livre, Les figures de proue de la gauche depuis 1789, on voit que deux des personnages qui sont parmi les premiers, c'est-à-dire Condorcet et Olympe de Gouges, ont été condamnés à mort par les révolutionnaires qui avaient le pouvoir à ce moment-là. Donc, je souhaiterais qu'on soit un peu plus précis, n'est-ce pas, lorsqu'on dit la gauche a ceci, la gauche a abandonné le peuple, la gauche n'a pas répondu aux aspirations.
Manifestement,
de ceci,
j'ai l'impression
cela.
Que quand on dit la gauche, on dit le Parti socialiste.
Voilà.
Ici.
Alors, peut-être.
C'est pour ça que j'ai précisé.
Oui, d'accord. Alors, si c'est le Parti
comme
socialiste.
Comme figure charismatique pour incarner une gauche, oui.
Mais aussi comme tentative de renouer avec ce que j'appelle la gauche incongrue. La gauche n'a pas toujours été en costume cravate, poliment. Elle était d'une extrême violence langagière et d'une réalité sociale. Je dis pas que Mélenchon y parvient. Je dis qu'il y a chez lui, chez Ruffin, singulièrement cette volonté de l'autre.
Et en face, Bernard Cazeneuve, qui
se propose comme une sorte de figure providentielle.
Si on parle de sécurité, juste une toute petite chose.
Oui, et ensuite
on dit que la gauche est totalement. Après, on en fait ce qu'on en veut. Mais il y a eu un tournant, ça s'est passé sous François Hollande. Manuel Valls étant Premier ministre, à l'automne 2014, sinon un tournant, du moins un moment qui explique ce qui est arrivé. Concomitamment, deux hommes sont morts en France. Un jeune écologiste qui manifestait à Sivens, Rémi Fraisse, qui manifestait à Sivens contre un projet de barrage qui s'est avéré illégal, qui est tué par la grenade d'un gendarme envoyé par le pouvoir socialiste Bernard Cazeneuve, dont on parlait étant ministre de l'Intérieur. Presque concomitamment, un grand patron français, le patron de Total, meurt dans un accident d'avion. Tout le gouvernement, tout ce que les socialistes comptaient comme gouvernants de Hollande, à Valls, etc., vont à l'enterrement du grand patron et abandonnent totalement le jeune militant qui pourtant ressemblait à ce qu'ils avaient été. Je ne reproche à personne ces amitiés. Mais à un moment donné, on a vu là, de manière patente, c'était en octobre 2014, comment le Parti socialiste, et lui qui gouvernait, avait totalement égaré ce qu'il était originellement, profondément. Et pour ce coup, du point de vue de Rémi Fraisse, le Parti socialiste n'avait pas abandonné l'impératif de la sécurité. Il ne pensait même qu'à cela, à l'ordre républicain. Tout le reste qu'on raconte, les islamo-gauchistes, les extrémistes, dans toute l'histoire des gauches, il y a eu des radicalités. Infiniment plus dingues à l'époque des Mao, infiniment plus périlleuses à l'époque où le Parti communiste dominant à gauche était en adulation devant l'URSS stalinienne, que quelques folkloriques imbéciles
qui pensent vraiment que dans les prêches d'un imam se situe la révolution. Ça ne pèse rien. Il y a eu dans l'histoire des gauches beaucoup plus d'aberrations qui n'empêchaient pas des constructions parce qu'il y avait un désir, le peuple et des bases qui existaient. Aujourd'hui, on est dans le rien.
Judith Weintraub.
Alors, c'est précisément le discours qu'avait tenu Jean-Luc Mélenchon au moment de la mort de Rémi Fraisse et qui lui avait valu d'en venir quasiment aux mains avec Bernard Cazeneuve.
On s'en souvient, ouais.
Oui. Alors, je me souviens plus des termes exacts, mais l'idée était la même que celle que vous venez d'exprimer, hein, c'est-à-dire.
Non, il disait que Cazeneuve était directement responsable et tué Rémi Fraisse, ce que jamais je ne dirais.
je parle. Vous êtes arrêté juste avant.
Mais parce que à un moment donné, on est les personnes qu'on accompagne dans leur dernière demeure. La gauche ne voulait pas accompagner Rémi Fraisse, elle voulait bien accompagner le patron de Total. C'est ainsi que c'est arrivé. Personne n'y peut rien.
C'est peut-être aussi qu'à l'époque, Rémi Fraisse avait été érigé en symbole, en victime.
Monsieur de Margerie, pardon, je fais un jour à sa mémoire.
Margerie.
Christophe de Margerie, en symbole
et en victime précisément de la violence de l'État et du fait que l'État avait bafoué les principes républicains de sécurité au profit du maintien de l'ordre. Donc c'était ce procès-là, et c'est ce procès-là que les dirigeants de la gauche ne voulaient pas légitimer en se rendant à l'enterrement, on s'en souvient. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'est, à mon avis, pas le réceptacle du peuple ? On est tous d'accord sur le constat, il ne l'est pas, il l'est de moins en moins, puisque les sondages lui donnent un score inférieur de moitié à celui qu'il a réalisé au premier tour de la présidentielle. Eh bien parce que précisément, l'insécurité du peuple, l'insécurité physique du point de vue de la délinquance, mais aussi l'insécurité culturelle, autre concept qu'on doit à Laurent Bouvet et que Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, avait fait sien et a continué de défendre, cette insécurité culturelle, Jean-Luc Mélenchon la nie, la conteste. Il n'est que de voir dans son programme présidentiel les chapitres ou les paragraphes consacrés à la laïcité, vous savez, en première ou en deuxième phrase, la laïcité ne doit pas devenir un instrument au service de la stigmatisation de l'islam. Eh bien là, on est au cœur de ce qui fait que Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais en phase avec ce que disent des mouvements comme les Gilets jaunes, par exemple.
Et le mot de la fin, il sera pour vous, Michel Winnock.
Vous savez, je pense qu'il faut être un peu plus réaliste et je me méfie, par conséquent, d'une idée platonicienne de la gauche, une idée pure de la gauche, une idée parfaite de la gauche, qui a des devoirs, qui doit faire ceci et cela. Et quand elle ne le fait pas, eh bien, c'est scandaleux. Elle a trahi, par conséquent, sa tradition. Mais vous savez, la gauche que vous aimez, M. Askolovitch, la gauche éruptive, insurrectionnelle, etc.
Incongrue.
Mais...
Non, je parlais d'une gauche qui avait une réalité sociale. C'est pas que je l'aime ou que
attendez,
je l'aime
attendez,
pas.
Attendez, non, mais
un
attendez.
Mouvement politique est inutile quand il se coupe de son évidence sociale.
Bon,
c'est ce qui est arrivé au PS. Alors
veux...
que je l'aime ou que je l'aime pas est vraiment
bon,
totalement indifférent.
Simplement d'un mot.
Oui, mais pardon.
On peut parfaitement préférer une gauche romantique, une gauche qui n'a pas accès au pouvoir parce qu'elle restera pure dans l'opposition. Vous savez, il y a un mot d'André Siegfried, le politologue, qui disait « Mais au fond, la gauche a vocation à l'opposition et pas au gouvernement. » Eh bien, on peut en discuter. Peut-être que la vraie gauche, elle doit toujours rester au gouvernement.
Mais ça, Blum a réglé cette question dès l'avant-guerre. La gauche... Comme n'importe quel mouvement politique, aspire et est faite pour gouverner. La question est, dans quel état en est-elle sortie? De fait, elle en est sortie dans l'inexistence. C'est pas de ma faute, peut-être même pas celle de Hollande.
Et
c'est
ben
une réalité.
Eh bien, ça sera le mot de la fin ce soir. Christophe Bourseilly, à moins que vous n'ayez trouvé quelque chose...
J'ai cherché, j'ai glané un petit mot de la fin quand même, une phrase de Claude Askolovitch. J'ai un petit peu rassemblé des morceaux de phrases pour y arriver, mais le Parti Socialiste a complètement égaré ce qu'il était originellement. Aujourd'hui, on est dans le rien.
Merci à tous, merci à tous. Michel Winnock, les figures de proue de la gauche depuis 1789, ça vient de paraître chez Perrin. Judith Weintraub, on vous retrouve bien sûr dans les pages du Figaro Magazine. Et Claude Askolovitch, on vous retrouve tous les matins sur France Inter dans la matinale pour la revue de presse. Oh.
time leads to that other realm. Can you take me up there? Can you take the helm? Beat me for the promise. I pray God. My refugee is throbbing underneath the sod. Deep inside a man, a loyalty dissolves. Deep inside a stranger, necessity absorbs.
Sale et méchant, les voyous de Fat White Family pour clore ce NRV, car oui, le NRV c'est fini pour aujourd'hui. Cette année c'est chaque jour dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast, et puis bien sûr 22h minuit à l'antenne. On reste en lien sur Facebook, on attend vos commentaires sur Twitter, sur Instagram avec le hashtag NRVFI. La réalisation était signée Marion Lelay et Juliette Medevielle. À la préparation on retrouve toute l'équipe: Virginie Rouzic, Benoît Lagan, Corinne Valente, Margot Page, Marie Mougin et Gaëtan Lévy. À la technique ce soir, Charles Leca et Charles Pélabon. Demain, pas d'émission, oui, on laisse la place au débat des élections européennes. Mais jeudi, on se retrouve toutes et tous et on sera là avec ça.
Is that a joke? I'm done.
Justine Trier, réalisatrice de Sibylle au bord de la crise de nerfs et en sélection officielle pour Cannes. À ses côtés, Jerry Schatzberg, figure clé du cinéma 70s américain. Et dans le NRV la suite, Internet, 30 ans après, de l'utopie au cauchemar. Tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. À jeudi.